13. L'Amorce avec Jean-Simon Buis.
Il est 5h pile au FM 93. Bienvenue dans l'Amorce. Merci de vous joindre à moi. On est déjà le milieu de la semaine. Ça passe vite. Mercredi 4 décembre 2019. J'espère que vous allez bien. C'est rare que j'ouvre en parlant de sport, mais je pense que ça vaut la peine de le souligner rapidement parce que le Canadien vivait une méchante drop depuis les dernières semaines avec 8 défaites consécutives, ce qui était la pire séquence depuis 1939-1940, si je ne m'abuse. Bien, ça s'est terminé hier soir et je vous en parlerai un petit peu plus tard là, après la pause de 5h15, de petit résumé du match. Mais sachez-le, c'est terminé. Ça risque d'être un peu un sujet de discussion aujourd'hui autour de la machine à café ou à cantine, c'est-à-dire cette victoire du Canadien qui met fin à une séquence épouvantable de défaites. Ils l'ont emporté 4-2 face aux Islanders de New York. Un petit tour à la météo pour commencer. C'est encore des températures pas si mal. Remarquez qu'avec le vent ce matin, on ressent ça pas mal froid. Ça rentre un petit peu plus dedans. Le maximum qui est prévu aujourd'hui est à moins 6 avec alternance de soleil et de nuages. La nuit prochaine, on va descendre à peu près à moins 9 pour demain atteindre moins 2. Et un petit peu de neige qui est prévu au menu demain, maximum de moins 2. 40% de risque d'averse de neige. Vendredi, c'est le retour du soleil, alternance de soleil et de nuages, maximum de moins 4. Et samedi, maximum de moins 6, avec alternance de soleil et de nuages également. Et présentement, à Québec, c'est un moins 11 qu'on a au mercure. Et selon le refroidissement éolien, que vous pouvez prendre ou laisser, dépendamment de vos croyances météorologiques, on ressentira aux alentours de moins 19. Oui, on le sent, c'est un petit peu plus froid, un petit peu plus froid que d'habitude de ce matin, que les derniers jours en tout cas, mais c'est pas la fin du monde non plus. Beaucoup de choses dans l'actualité ce matin. Je commence en vous parlant de Desjardins parce que c'est une affaire qu'on suit de près, particulièrement si vous êtes au nombre des clients Desjardins, ce qui est mon cas. Pendant un certain temps, j'étais de ceux qui se disaient « Ouf, on est chanceux, on n'a pas été touché par la fuite de données ». Souvenez qu'au début, c'était supposé être 2,9 millions de clients Desjardins qui avaient été touché par cette fuite de renseignements-là qui provenait de l'interne, hein, un employé. Puis bon, on a quelques détails qui ont fuité, mais on n'est toujours pas très certain de ce qui s'est passé ni des conséquences qu'attendent l'employé qui serait responsable parce qu'il n'y a pas eu encore d'accusations criminelles qui ont été portées. Sauf que là, il y a des conséquences qui commencent à arriver du côté du mouvement Desjardins en tant que tel. 6 mois après l'annonce de la fuite, ben là, il y a des gens qui perdent leur emploi, des gens qui sont tenus responsables pour ce qui s'est passé. Hier, on a appris via le président du mouvement Desjardins, M. Guy Cormier, que 2 hauts dirigeants perdaient leur emploi. Donc, des têtes qui roulent, des conséquences finalement par rapport à cette fuite massive de données. Souvenez-vous récemment qu'il y avait eu à s'expliquer devant l'Assemblée nationale, M. Cormier, puis ça n'avait pas été accueilli très, très bien la façon qu'il s'était défendu. Il était allé beaucoup de... Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent dans toutes les entreprises. Donner des exemples un peu partout en Amérique du Nord. On n'est vraiment pas les seuls à perdre des données. Ça arrive à tout le monde. Bon, c'était un petit peu les justifications qu'il avait apportées devant l'Assemblée nationale. Mais là, cette fois-ci, force est d'admettre qu'il sort le couperet pour tenter de tenir responsable certains des membres de la haute direction. Alors, les deux personnes qui perdent leur emploi, ce sont 2 vice-présidents. Denis Berthiaume, qui est le premier vice-président exécutif et chef d'exploitation chez Desjardins. Et Shadi Habib, qui est le premier vice-président, était, là je parle au présent, mais vous comprenez que c'est au passé, ces deux personnes-là ont été limogées. Shadi Habib, qui était premier vice-président des technologies de l'information, qui lui aussi s'est fait montrer la porte par son patron hier. Je vous résume un petit peu les propos de Guy Cormier en lien avec cette annonce-là. Il dit « La confiance que j'accorde aux membres de mon comité de direction est essentielle. Les événements des derniers mois m'amènent à la conclusion qu'il faut apporter des changements dans la composition de la haute direction. » Et la goutte qui a fait déborder le vase, en tout cas dans le Journal des Québec, c'est ce qu'on mentionne parce qu'on a des informations supplémentaires, c'est probablement le fait qu'on a réalisé que tous les clients Desjardins étaient touchés. Donc les 4,2 millions de particuliers qui possèdent des comptes chez Desjardins, des cartes chez Desjardins, ont été touchés par la fuite de données. Alors, c'est peut-être ce qui aurait fait déborder le vase. Et d'après certaines sources qui auraient parlé à Québécois, eh bien, il y aurait des membres de la haute direction qui l'auraient caché à Guy Cormier pendant plusieurs semaines, le fait que c'était tous les abonnés qui étaient touchés, ce qui, évidemment, n'est pas très acceptable là, quand on essaie d'avoir un climat de confiance au sein d'une institution. Et là, évidemment, on veut en profiter pour repartir du bon pied, puis tenter de mettre en place notamment un bureau de sécurité qui va surveiller ce qui se passe à l'interne et à l'externe aussi chez Desjardins. Question de restaurer un peu de la confiance qui a peut-être été perdue par certains clients Desjardins. Dans un autre dossier, en politique cette fois-ci. Ben, d'abord, un mot pour vous rappeler que lundi, c'est une députée caquiste qui a été élue dans Jean Talon. Alors, vous comprenez que l'heure était à la célébration du côté de la CAQ hier, alors qu'on a accueilli Joël Boutin, la plus récente des 76 députés caquistes à l'Assemblée nationale. On l'a accueilli triomphalement. Du côté de l'opposition, on était un petit peu moins tout sourire. Vous comprenez, les libéraux qui ont perdu un château fort depuis plus de 50 ans. Pierre Arquin qui a dit, ben, on n'a peut-être pas écouté la population convenablement. Il y a Québec solidaire qui a été mis face à la défaite aussi. Eux qui croyaient avoir une chance de l'emporter, ça n'a pas du tout été le cas. Finalement, leur candidat était troisième. Même que Manon Massé, hier, a admis probablement que l'effet Catherine Dorion, c'est-à-dire son costume d'Halloween, puis le fait qu'elle a été virée de l'Assemblée nationale quand elle avait son coton ouaté, ben ça a peut-être joué aussi dans le fait que le candidat a perdu. Ça pour dire que, bon, il y a une nouvelle arrivée à l'Assemblée nationale. Mais ce qui a fait jaser, notamment, c'est un autre recul de la CAQ, ça en fait quelques-uns dans les dernières semaines, eux qui étaient pas mal en avancée constante depuis leur élection au 1er octobre 2018. Là, force est d'admettre que dans les dernières semaines, c'est un petit peu moins unidirectionnel. On a tendance à reculer un peu, puis à susciter des réactions un peu moins positive sur certaines réformes, certaines annonces. Et c'était le cas cette semaine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un peu de ce qui se passait autour du régime québécois d'assurance parentale. On présentait des nouveaux chiffres, finalement, des nouveaux congés pour les différents parents, que ce soit des parents naturels, des parents adoptants également. Et ce qu'on se rendait compte, c'était que la Fédération des parents adoptants du Québec s'était rendu compte, ben là, c'est pas juste, nous autres, on a moins de congés que les autres. Quand on regardait ça, les gens qui étaient des parents biologiques avaient un total de 59 semaines pour s'absenter, pour prendre soin de leur bébé. Les gens qui adoptaient à l'extérieur du Québec, c'est 49 semaines, et ceux qui adoptent à l'intérieur du Québec, 42 semaines. Alors, ce projet de loi-là n'a pas fait vraiment des heureux du côté des parents adoptants, vous comprenez? Et finalement, devant la levée de bouclier, ben on a décidé de reculer de ce côté-là. Et hier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulay, a expliqué pourquoi il allait reculer dans cette affaire-là et qu'est-ce qui attendait finalement les parents adoptants.
On s'entend sur l'objectif d'égalité et ça s'exprime par un nombre de semaines, par du temps. Et moi, je leur ai assuré que sur l'objectif, on était totalement d'accord. Quant aux moyens d'atteindre l'objectif, moi, je suis en mode exploration.
Sauf qu'il semble que ce soit pas à même le régime québécois d'assurance parentale qu'on va permettre à ces parents-là d'avoir l'égalité, donc avoir à toute fin pratique le même nombre de semaines de congé parental que les parents biologiques, ce qui semble un peu logique. Puis hier, notre collègue Bernard Drainville, qui lui-même un enfant adopté, expliquait que souvent, dans un contexte d'adoption, ben il y a des problématiques différentes. C'est pas les mêmes problématiques que des enfants biologiques. Parfois, c'est des enfants qui ont un vécu et ça vient avec d'autres responsabilités, d'autres difficultés pour les parents qui méritent tout autant donc de pouvoir s'absenter dans le contexte d'un congé parental. C'est encore brassé du côté de l'hôtel de ville hier, toujours en lien avec le réseau structurant de transport en commun. Vous vous souvenez qu'on avait eu des détails concernant l'achalandage et sur les routes, notamment les problèmes de congestion auxquels on pouvait s'attendre suite à la mise en place du tramway et du trambus dans les prochaines années. C'est assez inquiétant, merci. Là. Souvenez-vous que hier on parlait des intersections qui seraient carrément bloquées parce qu'il y a une plateforme de 20 cm qui va traverser plusieurs artères, ce qui fait en sorte qu'à certaines intersections, les automobilistes ne pourront même pas passer. Donc, tourner à droite, tourner à gauche, aller tout droit, ça ne marchera pas. Hein. C'est le cas dans le quartier Saint-Sacrement, l'intersection la plus achalandée à Québec, c'est-à-dire Charest-Saint-Sacrement. Mais il y aura une belle plateforme de 20 cm qui va faire en sorte que les automobilistes ne pourront pas passer. 148 intersections au total qui vont être touchées par ces développements-là, faire en sorte que les automobilistes ne pourront pas passer, sans parler de 82 autres, si je ne m'abuse, là, pour lesquels vous ne pourrez pas tourner à gauche. Donc, c'est assez préoccupant, notamment pour les services d'urgence, pour les services de déneigement municipaux, mais pour les automobilistes en général, bien entendu. Et là, aujourd'hui, il y a l'étude du budget d'1,9 milliard de dollars qui est alloué pour le réseau de transport structurant. C'est un comité plénier, en quelque sorte. Et Jean-François Gosselin, évidemment, n'est pas tout à fait pour la manière dont ça se fait. Il a déjà dit à quel point il trouvait que c'était mal tricoté. Il a dit que c'était la guerre à l'automobile, tout ça. Et pour répondre aux questions des élus aujourd'hui, plutôt que de faire venir le directeur du projet, parce qu'il y en a un directeur du projet, il s'appelle Daniel Genet. On l'entend pas très souvent, là, Daniel Genet, effectivement, si le nom vous dit rien, c'est un peu normal. On l'entend pas souvent se prononcer, c'est plus souvent les élus, les politiciens, que ce soit Rémi Normand ou encore Régis Labeaume, qui parlent du projet structurant de transport en commun. Mais là, Daniel Genet, alors que l'étude du budget en tant que tel autour du projet, il sera pas là. Et ça, ça frustre énormément Jean-François Gosselin, qui a menacé hier, c'est au micro d'Éric Duhaime, d'ailleurs, il était là dans le retour, il a menacé hier de ne pas être là aujourd'hui pour poser ses questions si le directeur du projet n'était pas là.
Si c'est pas une blague, si c'est vrai, nous, demain, on sera pas là, on participera pas à sa mascarade, parce que, écoutez, c'est des plaignées, là, c'est des longues heures. Ça arrive souvent que je pose des questions aux fonctionnaires et le maire intervient pour leur dire de ne pas répondre à mes questions. Non, ça se fait pas. C'est il y a aucune transparence. Quand le maire agit comme ça, il y a aucune transparence.
Et là, ce serait seulement le directeur de la ville qui serait là, Luc Monty, pour répondre aux questions des élus. Et on peut comprendre un peu les préoccupations de M. Gosselin en lien avec ça. Mais sachez qu'aujourd'hui, donc, on risque d'avoir peut-être plus de détails, plus de justifications en lien avec le budget d'1,9 milliard qui a été alloué pour le réseau structurant de transport en commun dans les prochaines années. On poursuit avec peut-être pas des très bonnes nouvelles pour les consommateurs. Ça coûte encore plus cher de consommer, que ce soit dans le panier d'épicerie et d'autres produits de consommation. J'ai mis ça ensemble. Finalement, c'est la facture qui augmente, c'est plate à dire. Dans le cas du panier d'épicerie, c'est quelque chose de très concret parce qu'on a des chiffres ce matin, c'est dans la presse et le soleil notamment, concernant l'augmentation du panier d'épicerie. À chaque année, ça augmente, mais ça a augmenté pas mal l'an dernier. Si on regarde en moyenne la famille canadienne, c'est 12 180 $ qu'elle aura dépensé en 2019, ce qui est 434 $ de plus qu'en 2018. Donc, c'est une forte augmentation quand même. Et on prévoit, selon des chercheurs des universités Dalhousie et Guelph, que pour 2020, ce serait 487 $ qu'il faudrait ajouter à cette facture-là. Donc, ça monte année après année. Et dans certains cas, c'est des hausses très préoccupantes et très importantes parce que ce sont les produits santé, souvent, qui accusent les plus grosses hausses. Et dans ce cas-ci, l'an dernier, ce sont les légumes qui ont augmenté le plus. 12 % d'augmentation du prix. Alors, on demande aux gens de bien manger, mais en même temps, ben là, et puis en plus, on est en saison, là. Ça, c'est le mois de décembre, mois de janvier, c'est le moment où est-ce que les choux-fleurs commencent à coûter 12 piastres, là. J'exagère un peu, évidemment, là. Mais où est-ce qu'on est hors saison pour la plupart des légumes? Fait que ça coûte pas mal plus cher d'en acheter si vous voulez faire des recettes un peu plus santé. Alors, les légumes ont augmenté de 12 %. C'est le groupe alimentaire qui a le plus augmenté dans la dernière année. Alors, vous comprenez que c'est de moins en moins facile de manger santé. Et quand on regarde la hausse de prix dans les autres aliments, pain céréales 2 % produits laitiers et œufs 2 % les fruits et les noix 2 % les viandes 3 % poissons, fruits de mer 3 % et autres, donc produits d'épicerie, tout ça 2 % Alors, ça monte beaucoup, souvent un peu plus que l'inflation et dans le cas des légumes, beaucoup plus. Et là, en 2020, on en prévoit d'autres, des hausses. Vous voyez que les légumes, ça peut aller jusqu'à 4 % viande jusqu'à 6 % ça pourrait faire mal, et 3,5 % pour les fruits. Donc, c'est pas des excellentes nouvelles pour les consommateurs. Ça va coûter encore plus cher de s'alimenter l'an prochain et ça l'a déjà été cette année. Un autre élément qui risque d'augmenter, ça me fait sourciller un petit peu. Vous connaissez les fameux écofrais. C'est ce qu'on vous charge. C'est souvent écrit là, en dessous du prix d'une électronique. Vous achetez une télévision, un ordinateur. Puis en dessous, vous avez un certain montant qui est dévolu aux écofrais, qui devait servir notamment à l'ancien fonds vert là, qui a été rebaptisé. Là. Il y a un long nom dont je me souviens pas, là, mais il y a un nouveau nom pour le fonds vert, puis une nouvelle vocation. Puis on veut s'assurer que ce soit mieux investi, là, parce que vous savez que dans le fonds vert, il y a toutes sortes de controverses sur la manière dont l'argent était dépensé. Ben là, les écofrais qu'on utilisait pour les gros électroménagers présentement, puis les appareils électroniques, on songe à les appliquer aux petits électroménagers. Donc là, ça se pourrait, c'est dans le Journal de Québec ce matin, que le grille-pain, par exemple, coûte plus cher, ou le séchoir à cheveux. On donne quelques exemples, là, les cafetières, les fours à micro-ondes, malaxeurs, nettoyeurs à vapeur, rasoirs électriques, tous les petits électroménagers, on pourrait voir une facture d'écofrais en lien avec ça. Pourquoi? Parce que on va essayer de trouver un moyen, de les recycler, puis de leur donner une deuxième vie, de s'assurer de s'en débarrasser de façon convenable et écologique. Sauf que, quand on regarde ça, de façon concrète, au Conseil canadien du commerce de détail, c'est pas très évident de le faire et ça pourrait monter assez haut parce que les coûts de récupération des petits électroménagers peuvent être pratiquement équivalents au coût de vente, au coût de détail de l'électroménager. Ben, si on vous charge un 10-15 $ sur une facture de 1500 $ sur une télé, par exemple, ben ça paraît pas trop sur la facture. Sauf que si votre grille-pain, puis c'est vraiment l'exemple qu'on donne, si on veut le recycler, puis ça coûte 15 $ le recycler, mais que le grille-pain coûte 20 $ Non, vous allez penser à deux fois avant de mettre 35 $ sur un grille-pain qui en coûtait 20. On s'entend, ça va de soi. Alors, on est loin encore d'avoir une application de ça, sauf que sachez que la CAQ, présentement, est en appel d'offres pour essayer de trouver un moyen de récupérer les petits électroménagers et qui va encore probablement payer en bas de la facture, ben c'est vous, c'est moi et c'est nous, comme d'habitude, des frais supplémentaires. Alors, j'imagine qu'ils seront pas assez fous pour doubler le prix d'un grille-pain, mais sachez qu'il risque d'y avoir des frais supplémentaires quand vous allez magasiner de petits électroménagers, des petits appareils électroniques dans les prochaines années. Il est 5h presque 15 au FM 93. Au retour, je vous fais écouter quelques réactions suite à la première victoire du Canadien de Montréal en 9 matchs.
Doc Mayhew et José.
Lundi au vendredi, dès 9h30.
Au FM 93.
Ce samedi, c'est le cartel FM 93 chez Passe-temps 3000. 5 items de qualité réduits à des prix cartel, comme train électrique avec locomotive à vapeur régulier 180, prix cartel 65$. C'est ce samedi dès 8h chez Passe-temps 3000.
J'en ai appris sur les meubles lors de ma visite chez Meubles Zip International. 95% de leurs meubles rembourrés, divans, causeuses, fauteuils sont faits en Amérique, dont au Canada. Parce que chez Zip, ils veulent nous offrir des meubles qui vont durer des années et des années. Entre autres, Zip vous offre tous les produits canadiens. Des meubles québécois entièrement personnalisables. La longueur de la table, hauteur des chaises, le style, les couleurs. Il y a un seul magasin comme ça à Québec, c'est Meubles Zip International, coin Amel et Henri IV. Visitez le nouveau site web zipinternational.ca.
Les Rosseries Saint-Hubert vous offrent le régal des fêtes pour deux personnes. Une cuisse, une poitrine avec tous les accompagnements, deux mini tourtières avec ketchup aux fruits et deux portions de pêtes de sœur à seulement 32$.
Éric Duhaime et Patricia de Guara.
Ah, Patricia, je suis tellement content de te parler.
Moi aussi, Éric, j'avais hâte. Surtout que tu connais bien l'immobilier.
Ben, pas autant que toi, mais j'adore ça. Patricia, dis-moi, c'est quoi ton secret pour vendre autant pis pour qu'on te voit partout?
C'est pas compliqué, Éric. Ça fait 25 ans que je suis dans le marché de Québec et je suis toujours aussi passionnée. À coup d'audace, je vends. Mais dis-moi, Éric, tu voulais me faire visiter un de tes condos?
Oui, j'ai hâte d'avoir les conseils de la meilleure.
Pour vendre ou acheter, contactez Patricia de Guara. Visitez Patricia et son équipe.
Alerte de lutins à SDL. Ils sont partout. C'est la fête des lutins dans votre centre commercial préféré. Ces joyeux plaisantins vous montreront comment transformer une canne en bonbon en personnage ou fabriquer de la slime magique. Animation, lutines maquilleuses et surprises à profusion. Les enfants pourront faire un tour de trait du Père Noël à petit prix. Participez à la fête des lutins à FDL. Seulement jusqu'au 24 décembre. Après, ils repartiront pour le Pôle Nord. Un autre événement FDL. Détails sur FDL Centre Commercial.
Il y a des histoires vraies qui sont si fantastiques qu'on pourrait penser qu'elles ont été fabriquées de toutes pièces.
Les derniers vilains, la fantastique épopée des lutteurs de la famille Vachon.
Mad Dog est devenu un héros pour tous les Canadiens. Son succès, c'est que le monde haïssait.
Robert Lepage le décrit comme un film remarquable, drôle, intelligent et touchant. Les derniers vilains, un documentaire aux allures de fiction, aussi loufoque et déconcertant que l'ont toujours été la lutte et les Vachons. Au cinéma dès le 6 décembre.
Cogeco Média est fier de souligner le 40e anniversaire du Club Avantage Multisport. Fondé en 1979, le club innovait avec ses 15 terrains de tennis intérieur. Véritable institution, il a même reçu le titre de meilleure installation au Canada. Pionnier de la rue Bouvier, le Club Avantage s'est bonifié au fil des ans, ajoutant gym, spinning, badminton, workout, yoga, un excellent restaurant et une halte garderie gratuite. Bravo au Club Avantage et à ses fondateurs, Gervais et Serge Jacques, visionnaires du quartier Le Bourgneuf.
Depuis 1983, l'Aube Rivière a aidé plus de 120 000 personnes en apportant soutien et réconfort à ceux qui en ont besoin. Des services de base au programme de formation jusqu'à la réinsertion sociale. Aujourd'hui, l'Aube Rivière a besoin de vous. Rallumez des vies en répondant généreusement à leurs sollicitations postales ou faites votre don à l'auberivière.org. Pour rallumer des vies, donnons. L'Aube Rivière remercie ses partenaires sous la présidence d'honneur de la Caisse des Jardins du Québec. Collaboration FM 93.
Pour vos cadeaux, offrez le spectacle de Réal Bélan.
Oh, t'as-tu remarqué? La structure est bonne. Tu bois un verre de vin, t'es pas en train de boire un pont.
30 ans de carrière. 30 villes à seulement 30 piastres. Une présentation fin de place. Tous les détails au realbélan.com.
L'amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h. Au FM 93.
Il est 5h19, mercredi le 4 décembre 2019. Merci d'être dans l'amorce. À la météo, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? Ben, c'est plutôt une belle journée côté soleil parce que c'est l'alternance de soleil et nuages, maximum de moins 6, donc assez froid. Demain, jeudi, maximum de moins 2. Retour des nuages avec 40% de risque d'averse de neige. Par contre, on ne parle pas d'accumulation de neige au sol. Vendredi, maximum de moins 4 avec alternance de soleil et de nuages. Samedi, moins 6, alternance de soleil et de nuages également. Et présentement à Québec, c'est moins 12 degrés avec un ressenti d'aux alentours de moins 19 concernant le fameux facteur de refroidissement éolien. Et on le sent un petit peu ce matin, il fait assez froid. C'est une nouvelle qui fait la une, notamment du Journal de Québec, nouvelle sportive, parce que ça faisait 8 matchs consécutifs que le Canadien se faisait battre, Canadien de Montréal qui perdait, que ce soit contre des bonnes équipes ou des pas bonnes équipes. Là, c'était une séquence épouvantable, la pire séquence depuis 1939-1940. On en était à se demander quand est-ce que ça allait être freiné, cette séquence-là. Ben, c'est hier, finalement, que l'hémorragie a pris fin. Le Canadien qui fêtait, coïncidemment, c'est 110 ans avec la présence de 11 anciens capitaines. Les 11 des 12 derniers capitaines étaient présents sur la glace du Centre Bell pour l'ouverture du match. Alors, le Canadien qui a réussi à l'emporter hier 4-2 contre les Islanders de New York, qui est une équipe pas mal plus forte que certaines autres contre lesquelles ils ont perdu. Là, on peut penser aux Devils de New Jersey dans les dernières semaines. Mais notamment, là, ils ont réussi à l'emporter hier, enfin, 4-2, une belle victoire du Canadien de Montréal qui fait probablement pousser un soupir de soulagement un peu tout le monde dans le vestiaire. Également à Marc Bergevin, peut-être à Claude Julien aussi. Il devait y avoir une couple qui commençait à avoir peur pour leur job. Finalement, c'est juste le gardien substitut, Keith Kincaid, qui a perdu son emploi puis qui s'est fait mettre au balotage. Puis les autres s'en sont tirés. Je vous fais entendre quand même le commentaire d'après-match de l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien. Ben, vous comprenez, vous allez entendre tout le soulagement d'un entraîneur qui voit son équipe gagner après 8 défaites.
Les gars ont fait du bon travail en zone offensive, mais aussi défensivement. Comme je te dis, ça fait peut-être 3 matchs là, que je crois qu'on retrouve notre jeu défensivement. Ça s'améliore, c'est qu'on va continuer à travailler en fonction d'espérer devenir de mieux en mieux pour justement gagner plus de matchs.
Il y a le joueur Philippe Dano qui était un des marqueurs hier soir dans la victoire du Canadien qui s'est aussi exprimé.
Un gros 60 minutes. On a joué un peu comme les deux dans la game, sauf qu'aujourd'hui, vraiment, Price n'a rien donné, puis on était solide. Donc, une grosse victoire d'équipe. Fait du bien, puis faut pas oublier le sentiment qu'on a eu les 8 derniers matchs. Faut construire là-dessus, puis grandir de ça, puis vraiment être affamé à chaque match.
Alors, souhaitons que ça se replace pour le Canadien de Montréal dans les prochains matchs, mais au moins une première victoire en 9 matchs qui risque de les replacer dans la bonne track dans les prochains matchs. J'ai trouvé qu'il y avait un exercice intéressant dans le Journal de Québec ce matin, dans la section argent. C'est Daniel Germain qui signe un article sur le coût de péter la balloune. C'est le bon moment d'en parler. On est en pleine période des parties de bureau. C'est les fêtes qui s'en viennent. Nez Rouge a repris la fin de semaine dernière aussi. Alors, lui, il recense un peu qu'est-ce que ça peut vous coûter de... Vous savez ce qui peut arriver des fois. Là, on boit pendant une certaine période de la soirée, on soupe, là, on arrête de boire. Oh, je suis correct à conduire, je veux sauver le taxi. Des questions que tout le monde se pose à un moment ou à un autre, alors qu'on devrait peut-être pas s'apposer la question puis juste carrément prendre un taxi, un réaccompagnement, que ce soit tolérance zéro ou encore nez rouge, parce que les coûts sont très importants. En plus, évidemment, de l'infraction criminelle, il a recensé tout ce que ça pouvait coûter à partir du moment où vous faites prendre par la police, vous devez souffler, là. Et là, en passant, il n'y a plus besoin de soupçon, même pas pour la police, là. Ils peuvent faire souffler n'importe qui depuis le 25 novembre dernier. Donc, ça fait en sorte que vraiment, ça peut tourner en cauchemar, une mauvaise décision à la suite d'une soirée qui est arrosée. Alors, d'abord, il dit, mais financièrement, l'option s'avère désavantageuse dès les premiers instants. Le permis de conduire est suspendu sur le champ. La voiture peut être remorquée. La note de remorquage, c'est un minimum de 80 $ et d'entreposage, minimum de 15 $ par jour. Ben déjà, ça coûte probablement pas mal plus cher que le taxi que vous avez pas pris. Première chose. En plaidant coupable, on se voit imposer une amende de 1000 $ et révoquer son permis de conduire pendant un an. On doit ensuite se soumettre à une évaluation dite sommaire. Le but de cet examen étant de dépister une incompatibilité entre sa consommation et la conduite sécuritaire d'un véhicule routier. Donc, en partant, ça, c'est 300 $. Si ça marche, on vous fait passer une séance de sensibilisation qui s'appelle Alcofrein, qui coûte 150 $. Si le test montre une incompatibilité, donc vous consommez trop par rapport à la responsabilité de conduire un véhicule moteur, on vous fait passer une évaluation complète, une thérapie qui coûte à peu près 800 $. Et même, on n'est jamais à l'abri de cette évaluation-là, même à la suite d'une première infraction. Et par la suite, ben vous allez être contraint pendant un an de conduire un véhicule muni d'un antidémarreur étilométrique qui coûte 50 $ à installer, mais qui coûte 61 $ par mois à utiliser avec tous les désagréments d'avoir un antidémarreur. Les gens qui en ont déjà eu un peuvent vous en parler. Des fois, ça part à n'importe quel moment. Vous êtes sur la route, puis ça se met à partir. Au renouvellement du permis de conduire, la contribution d'assurance, évidemment, augmente en raison des points d'inaptitude. Ça passe de 60 $ pour un dossier vierge à plus de 330 $. Et vous ajoutez à ça ben, les frais d'avocat. Si l'affaire est simple relativement, ça va vous coûter peut-être en bas de 2000. Mais si c'est long, s'il y a un procès, ben, ça peut monter au-dessus de 10 000 $. Alors, ça fait réfléchir à deux fois avant de prendre la mauvaise décision à la suite d'une soirée arrosée. D'autant plus qu'aujourd'hui, ben, on a toutes les options disponibles pour retourner à la maison en sécurité et s'éviter tout le fardeau d'avoir un casier judiciaire en lien avec une ballonne pétée puis de conduire avec, de se faire prendre en conduite avec les facultés affaiblies. Alors, j'espère que ce genre d'article-là et ce genre d'intervention-là peut contribuer à un peu plus de sensibilisation. Il est presque 5h25. Merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. On s'en refait une dès demain matin, 5h. Et d'ici là, c'est Bouchard à part. Soyez à l'écoute aujourd'hui, journée spéciale. C'est la journée de l'encan du souper de la guignolée. Alors, soyez à l'écoute jusqu'à la fin pour savoir qui seront nos gagnants ou pour participer, bien entendu. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.